Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chimères, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon être est brisé.
Amen. Ce soir, j'aimerais vous parler de la foi. Eh oui, de la foi. Parce que la foi, c'est important. Donc, je vais terminer mon message sur la foi cet après-midi, si Dieu me le permet. Gloire à Dieu. Parce que la Bible dit que mon juste vivra par la foi. Et vous êtes son juste parce que vous avez été justifié. Merci. Vous avez été justifié puissamment par le sang de Jésus-Christ et vous êtes devenu injuste. Et parce que vous êtes devenu injuste, vous êtes entré dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle vie avec de nouvelles lois. Et les lois qui régissent votre vie maintenant, c'est la foi. Mon juste vivra par la foi. Vous savez que cette révélation qui est dans la parole de Dieu, ce passage notamment qui est à plusieurs reprises dans les Écritures, tout autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, a coûté cher à la vie d'un homme pour avoir cette révélation. Et cette révélation est venue au travers de Martin Luther. Martin Luther était un homme religieux. C'était un homme qui cherchait Dieu de tout son cœur, mais la seule chose qu'il connaissait, c'était la religion. La religion, mes amis, aussi bonne soit-elle, ou aussi mauvaise soit-elle, ou quelle qu'elle soit, la religion et quel que soit son nom, ne permet jamais de connaître Dieu. Vous ne pouvez pas connaître Dieu lorsque vous suivez une religion, parce que Dieu n'est pas un Dieu de religion, il est un Dieu de relation. La religion et ses dogmes sont des choses faites de main d'homme. Mais la relation avec Dieu vient de la connaissance de sa parole et de la connaissance de qui il est et de ce qu'il n'est pas simplement quelqu'un dans le ciel, mais il est quelqu'un sur la terre avec vous et qu'il est votre ami et même votre meilleur ami. Alléluia! Je me rappelle lorsque j'étais plus jeune, je suis allée dans une colonie de vacances et la première fois et la dernière fois où je suis allée dans une colonie de vacances, j'étais prévue pour un mois de colonie de vacances et Dieu merci, ma mère est venue me chercher au bout de 3 semaines. C'était une colonie de vacances chrétienne. Et dans cette colonie de vacances chrétienne, il y avait si peu de chrétiens, et c'était une bonne chose. Parce que beaucoup de gens et de jeunes, j'avais peut-être 13 ans, beaucoup de jeunes venaient dans cette colonie qui était dans les montagnes, qui était sous la tente, qui était vraiment à la dure, entre guillemets. Enfin bon, bref. Et donc, dans cette colonie de vacances, il y avait des jeunes qui venaient de partout, en fait, et on dormait, vous savez, dans des tentes de 8. Donc, on tombait avec des collègues, des jeunes de notre âge, et on dormait ensemble, les filles avec les filles, les garçons avec les garçons. Et donc, je me souviens très bien que dans cette colonie de vacances, personne ne connaissait Dieu. Moi, je croyais arriver dans une colonie de vacances où les gens connaissaient Dieu, mais enfin bon, il y avait soi-disant donc des moniteurs, des gens qui encadraient, qui étaient chrétiens, et ils étaient chrétiens. Et donc, je me souviens avoir commencé à parler le soir de Jésus dans ma tente. Rien de très exceptionnel, simplement, le soir, vous savez, tout le monde sortait son livre. À l'époque, il n'y avait pas Harry Potter, mais enfin bon, chacun sortait son petit machin, son petit livre. Mais moi, je sortais la Bible. Et je lisais ma Bible, donc en fait, je me rappelle qu'à 13 ans, je lisais ma Bible et à chaque fois, je repartais à Matthieu 1:1. Et on recommençait à chaque fois. Je ne savais plus où je m'arrêtais, donc je reprenais à chaque fois. Enfin bon, Genèse 1 et Matthieu 1. Bon, bref. Et donc, je lisais ma Bible et les jeunes étaient très surpris de ce que je lisais ma Bible. Alors, ils me disaient, ouais, pourquoi tu lis la Bible et tout, raconte-nous, etc. Alors, je leur racontais un petit peu ce que je connaissais de Dieu. Mais la seule chose que je connaissais de Dieu, c'est que Dieu était mon meilleur ami. Donc, je leur ai dit, je leur parlais exactement avec mon langage de 13 ans et je leur disais, moi, Dieu, c'est mon meilleur copain. C'est mon meilleur ami. Quand j'ai un besoin, je lui parle. Quand j'ai des soucis, je lui parle. Je lui explique, je lui demande de m'aider. J'ai expliqué avec des mots tout simples de 13 ans que Dieu était mon meilleur copain. Mais voyez-vous, l'information est passée. L'information est montée. Elle est même montée jusqu'aux gens, au personnel qui encadrait et à ces moniteurs qui étaient chrétiens. Et je me souviens, mes amis, que dans cette colonie de vacances, on est venu me chercher un soir dans ma tente en me disant « la directrice t'appelle ». Donc j'ai dit « ok, la directrice m'appelle » et puis on m'a encadré un moniteur d'un côté, une monitrice de l'autre. Et on a marché en silence et je me rendais bien compte que la monitrice m'appelait sûrement pas pour me faire des félicitations. Donc j'ai marché comme ça, on a marché. Je me rappelle, c'était dans la montagne jusqu'à ce qu'on arrive à la... je sais plus, c'est une caravane qu'avait sûrement la directrice. J'arrive dans la caravane et en fait, on me fait monter les trois premières marches. Et au niveau de la porte, on me dit en fait, si tu continues à dire ça, on m'a pas laissé entrer. En fait, je me demande si la directrice m'appelait vraiment ou quoi. En fait, on m'a pas laissé entrer. On m'a dit, si tu continues à dire que Dieu est ton meilleur ami, ça va mal aller, hein. Tu me dis plus ça, hein. Et c'était des chrétiens qui me disaient ça. Comme si j'avais blasphémé. Mes amis, pourquoi je vous dis ça? Parce que les gens ne connaissent pas Dieu. Les gens ne connaissent pas Dieu. Ils pensaient que je blasphémais. Ils pensaient que je manquais de respect à Dieu en disant que Dieu était mon meilleur ami. Je sais pas exactement ce qu'ils voulaient que je dise. Mais en tout cas, c'est sûr. Eux, ils ne connaissaient pas Dieu. Moi, je le connaissais. Et eux, ils ne connaissaient pas Dieu. Je me rappelle le dimanche matin. Il y avait donc je suis restée 3 semaines, donc c'était 3 fois à 3, j'ai eu 3 dimanches. Il y avait, vous savez, vraiment une tonne de gamins. C'était plein de jeunes. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait plusieurs centaines de personnes qui étaient comme cela en rang ici. Et puis vous savez, le dimanche matin, simplement, les moniteurs, ils avaient le droit de prendre le pain au levain. Ce qu'ils savaient pas, c'est que moi j'étais déjà baptisée. Hein. J'avais été déjà baptisée d'eau, j'étais engagée avec Dieu. Et donc, lorsque c'était le temps du pain et du vin, mes amis, sans vouloir provoquer personne, simplement, je me suis levée pour aller à la table de Sainte-Seine pour prendre le pain et le vin. On m'a regardée avec des yeux les plus étranges, comme si c'était vraiment incroyable. Et il a fallu plusieurs semaines, enfin peut-être 2 semaines, ou même à la 3e semaine, finalement, on a pu me servir la Sainte-Seine parce que j'étais baptisée et engagée avec Dieu. Mais on m'a pris entre 4 yeux pour bien m'assurer que vraiment j'étais baptisée, que vraiment j'étais chrétienne avant de me donner la Sainte-Seine. Mes amis, moi je connaissais Dieu. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Ils servent une religion, mais ils ne connaissent pas la relation. Parce que mes amis, lorsque vous avez une relation avec Dieu, c'est rien pour vous de dire que Dieu est votre meilleur ami. Oui, il est votre meilleur ami. Il est votre super meilleur ami. Et probablement le seul ami que vous aurez dans ce monde, qui soit fidèle et juste et bon et compatissant. Alléluia, toujours à votre écoute. Et là pour vous soutenir en tout temps et en toutes circonstances. Alléluia. C'est sûr que j'irai jamais à la fin de mon message ce soir. Martin Luther servait une religion. Et parce qu'il servait une religion, il cherchait Dieu dans son cœur. Parce qu'il n'était pas satisfait. Parce qu'il y avait un cri à l'intérieur de lui qui lui disait, il y a une vérité à laquelle je passe à côté. Il marchait, en fait, il a monté, je sais pas, dans une... il faudrait que je retrouve cela, j'ai pas regardé cela ce soir. Mais simplement, dans une cathédrale très connue, je sais plus exactement où, dans un monastère. Non, c'était dans un monastère. Il marchait, vous savez, à genoux. Il montait les escaliers à genoux jusqu'à ce que ses genoux soient ensanglantés. Et alors qu'il était là en train de faire ce martyre pour soi-disant connaître mieux davantage Dieu. Le Saint-Esprit lui a parlé. Et Dieu, merci pour le Saint-Esprit qui parle. Et lui a dit, mon juste vivra par la foi. On ne me trouve pas par les œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres. C'est pas en marchant pieds nus et en ayant les pieds ensanglantés et en étant écorchés que tu connaîtras Dieu davantage. C'est en le connaissant dans sa parole et par son esprit. Mon juste vivra par la foi. À cette époque-là, Martin Luther est allé dans la bibliothèque et il a demandé à voir la Bible. Le seul livre, c'était un religieux, n'est-ce pas? Le seul livre qui était enchaîné par une grosse chaîne avec de gros maillons et qui était un gros livre s'appelait la Sainte Bible. Cette Bible était enchaînée parce qu'on n'avait pas le droit de la lire. On avait le droit de lire dans tout ce qui est le petit séminaire ou autre chose. On a le droit de lire tout ce que les philosophes ont dit. Tout ce que les philosophes ont déclaré, tout ce qu'est la bonne pensée humaine, mais ce que ne déclare la parole de Dieu, c'était interdit de le lire. Et vous savez bien ce par quoi est passée notamment la France dans toutes ces années d'obscurantisme et de Moyen-Âge, n'est-ce pas? Où les gens ont été interdits de lire la parole de Dieu, où les protestants ont été persécutés parce qu'ils avaient la Bible. Où ce livre a été combattu par la religion parce que la religion n'a pas l'esprit de Dieu. Et je ne suis pas en train de condamner qui que ce soit. Je parle simplement que, comment il s'appelle ce, Martin Luther a trouvé la Bible. Et lorsqu'il a trouvé la Bible, il a lu la Bible. Et lorsqu'il a lu la Bible, son esprit intérieur a été nourri. Parce que lorsque vous lisez la Bible, il y a quelque chose, il y a un flot de l'Esprit de Dieu qui vient et qui vous nourrit. Parce que c'est pas dans les livres des philosophes ou dans les livres des historiens que vous trouvez cela. Et il est tombé sur ce passage que le Saint-Esprit lui avait donné alors qu'il franchissait et qu'il marchait sur les genoux en sanglotant. Il est arrivé au point où il est écrit « Mon juste vivra par la foi ». Sa vie a été transformée, sa vie a été changée et il a compris qu'on pouvait toucher Dieu, qu'on pouvait connaître Dieu, connaître sa puissance, connaître son nom et avoir le fruit de sa puissance dans nos vies au travers de la foi. Alléluia! Vous ne pouvez pas connaître Dieu sans la foi. Mon juste vivra par la foi. La foi, c'est la connaissance de Dieu. La foi, c'est la connaissance de Dieu. C'est pas être un mystique, c'est pas avoir une longue barbe. La foi, c'est la connaissance de Dieu. Vous pouvez être quelqu'un de jeune, de moderne, dans votre monde, dans votre vie active, et avoir la foi. Vous n'avez pas besoin d'être un reclus, vous n'avez pas besoin... En fait, Dieu n'a pas besoin de reclus, Dieu a besoin de gens sur le terrain qui font connaître au monde que Jésus-Christ est Seigneur. Dieu a besoin de gens qui sont sur le devant, qui font face aux puissances des ténèbres, qui font face à l'opposition, qui font face à la persécution, mais qui déclarent en tout temps et en toutes circonstances que le seul chemin et la seule vérité et la seule vie, c'est en Jésus-Christ, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et qu'il n'y a pas d'autre chemin. Ce n'est pas par Bouddha, ce n'est pas par Allah, ce n'est pas par je ne sais pas trop qui, ce n'est que par Dieu. Jésus-Christ est son nom. Et d'ailleurs, quand on dit Dieu, Dieu ne veut rien dire. Les gens disent Dieu, Dieu, Dieu. Quel Dieu ? Quel Dieu ? Quel Dieu ? Nous n'avons pas le même Dieu. Jésus-Christ est son nom. Il est le seul chemin. Jésus-Christ est le seul à être mort pour vous et à être ressuscité pour vous. Quel Dieu servez-vous ? Alléluia. Alléluia. Et mes amis, lorsque l'on est chrétien, on est pratiquant. Est-ce que vous m'entendez? J'ai vu beaucoup de gens, des millions de gens, et nous avons vu cela, au décès du pape, qui se sont assemblés, qui ont versé des larmes. Mais ces millions de gens, pour la plupart, pas tous, sont des gens qui disent « Je suis croyant, mais pas pratiquant. Moi, je ne connais pas cette foi-là. Moi, je suis croyante et je suis pratiquante. » J'ai une foi et je la pratique dans le nom de Jésus. Ça veut dire je prie chez moi, ça veut dire je prie à l'église. Ça veut dire je rencontre quelqu'un qui ne connaît pas Jésus et qui a des besoins, je lui parle de Jésus. Ça veut dire j'ai l'Esprit de Dieu sur moi, je donne l'Esprit de Dieu aux autres. Alléluia. Ça n'existe pas. Des gens qui sont croyants mais pas pratiquants. Si vous n'êtes pas pratiquant, vous n'êtes pas croyant. C'est pas vrai. C'est des mensonges. C'est des tromperies, c'est des séductions. Comment ça? Pratiquant. Croyant mais pas pratiquant. Quel est ce démon qui a parlé? Et qui veut faire croire qu'on peut marcher avec Dieu en étant croyant mais pas pratiquant? Cette séduction vient droit de l'enfer. Vous avez vu, regardez dans les Actes des Apôtres. Voyez un disciple du Seigneur qui était croyant mais pas pratiquant. Trouvez-moi un. Sûrement pas. Nous sommes croyants et nous sommes pratiquants. Alléluia. Gloire à Jésus. Je ne fais pas le procès de personne. Je parle simplement ce qu'il y a derrière l'esprit de la religion. Alléluia. Gloire à Jésus. D'ailleurs, Jésus était toujours en colère après les religieux. Mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne suis pas dans mon message. Je n'ai même pas parlé la première ligne, mais ce n'est pas bien grave. J'aimerais, je ne l'ai pas fait ce soir parce que vraiment je n'avais pas prévu de le faire ni même d'en parler. Et c'est dommage que je n'ai pas prévu parce que j'aurais au moins les passages pour vous montrer dans la Bible parce que je ne les ai pas comme cela en tête. Ce n'était pas si facile de marcher avec Jésus. Parce que tout le monde, vous savez, donne la belle image de Jésus, vous savez, le doux Jésus. On le voit souvent, vous savez, comme un berger doux avec des brebis derrière. Marchez avec Jésus, vous allez voir. Demandez un petit peu aux disciples, à Pierre, Jean... Et à tous ceux qui ont marché avec lui, si c'était le gentil doux berger, qui disait « Oui, mes enfants, oui, mes enfants, sûrement pas. » Voyez-le, la Bible dit à de nombreuses reprises, lorsqu'il avait des religieux ou des gens en face de lui, et même ses disciples se sont fait fouetter les fesses, mes amis, combien de fois ? Ouh, ils se sont fait reprendre, ils se sont fait, waouh, littéralement exploser par Jésus, combien de fois ? Et en public, même pas en privé, même pas en rendez-vous spécial, juste devant tout le monde, si c'était nécessaire, boum ! Jésus reprenait avec une fermeté, une sévérité, de façon tellement directe. Vous savez, aujourd'hui, les gens, ils aimeraient que les serviteurs de Dieu soient doux, soient conduisent, vous savez, simplement avec gentillesse, sans jamais reprendre, sans jamais dire « Non, ça c'est blanc, mais ça c'est noir. Oh, le gris, d'accord, c'est acceptable. » Ils aimeraient, vous savez, qu'on ne reprenne jamais. On n'a pas le droit de disputer. On n'a pas le droit de dire « Non, ce n'est pas bien ce que tu fais. Tu arrêtes maintenant. » On n'a pas le droit de dire non. Vous voyez ? Les gens s'offensent, sont pas contents. Marchez avec Jésus. D'accord. Ok. Vous ne voulez pas de notre oui, vous ne voulez pas de notre non, alors marchez avec Jésus. Vous allez voir ce qu'il va vous dire. Vous allez voir. Parce que Jésus, il est entré dans le temple, n'est-ce pas ? Il a pris des cordes, il les a tournées ensemble. Et le premier qui était devant lui, chou ! Prends ça ! Il a fouetté tous les gens du temple, il les a fait partir. Ils sont partis, ils ont pris leur culotte et ils sont chou. Ils ont fui. La Bible dit que Jésus, lorsqu'il avait des gens qui venaient, qui l'interrogeaient ou qui essayaient de le piéger, promenait, la Bible dit, promenait sur eux des regards indignés. Ouh, il était en colère. Jésus reprenait ses disciples. Il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Mes amis, vous savez ce que c'est Jésus qui vous dit arrière de moi, Satan, en face de tous les disciples, que vous êtes déjà en pleine compétition les uns avec les autres pour savoir qui est-ce qui va être le meilleur ? Arrière de moi, Satan ! Pierre, c'était comme ça, c'était le rythme. Et vous ne comprenez toujours rien, il disait race d'incrédules et perverses. Il a dit à ses disciples race d'incrédules et perverses, jusqu'à quand vous supporterai-je ? Est-ce que vous vous rendez compte ? Aux hypocrites, aux religieux, il leur a traité de tombeau blanchi. Bref, ce n'est pas mon sujet. Je ne sais même pas pourquoi je suis venue dire ça. Mais pourquoi ? Simplement parce que parfois la religion essaie de nous cadrer, même Jésus, dans un certain sens, dans un certain rôle. Maintenant, je vous mets au défi. Relisez Matthieu, Marc, Luc, Jean, avec ce que je viens de vous dire de Jésus, et vous allez voir combien il était en mission sur la terre. Parce qu'il était en mission, il ne rigolait pas avec les gens. Et le premier qui était là à vouloir faire un obstacle sur son chemin, ça pouvait être son disciple, son meilleur disciple, son plus gentil disciple, la personne qui lui avait donné la plus grande enveloppe dans la main ou dans la bourse de Judas, ou qui que ce soit, mes amis, il le reprenait, il l'éjectait de son chemin, vite fait, bien fait. Il était comme ça, parce qu'il était sans compromis, parce qu'il était en mission. Et parce qu'il avait un but à accomplir. Et lorsqu'on a un but à accomplir, lorsqu'on a une vision à accomplir, mes amis, on va de l'avant, et puis c'est tout. Et on ne fait pas de détails, ni de sensiblerie avec qui que ce soit. On avance dans le nom de Jésus. Et ça, c'est l'esprit du leader. Un leader a cet esprit-là. D'ailleurs, mon mari a cet esprit-là. Soyez un petit peu autour et vous verrez. Demandez aux gens du bureau. Mais c'est un bon esprit. Un bon esprit qui permet d'aller de l'avant. Hallelujah. Mon juste vivra par la foi. Mes amis, vous devez vivre par la foi. La foi, c'est la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que la connaissance de Dieu ? C'est la connaissance que Dieu est bon. Je sais que Dieu est bon. Je sais que Dieu est fidèle et juste. Je sais qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Oh, les situations me montrent l'inverse. Oui, mais la foi me dit, la parole me dit que Dieu est un bon Dieu. Et parce que je connais mon Dieu, je sais qui il est. Donc là, ma vie ne se base pas sur des circonstances. Ma vie se fonde et se construit sur ce que je sais de mon Dieu, dans mon cœur, dans mon expérience et au travers de la parole de Dieu. La Bible dit que deux maisons ont été construites. Une maison a été construite sur le sable, une maison a été construite sur le roc. Les mêmes choses se sont passées. Les mêmes épreuves, les mêmes vents, les mêmes tempêtes sont venues contre ces deux maisons. La maison qui était bâtie sur le sable, c'est-à-dire qui n'est pas bâtie sur la foi, qui n'est pas bâtie sur la connaissance de Dieu, s'est écroulée. Mais la maison qui était bâtie sur le roc, et nous savons que Jésus-Christ est ce roc, en dépit des circonstances, en dépit des oppositions, est resté ferme. Lorsque Jésus a raconté cette parabole que vous connaissez tous, il a dit au départ, avant de raconter cette parabole, il a dit « Pourquoi me demandez-vous, pourquoi venez-vous vers moi et me dites-vous « Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Il a dit cela à ses disciples, il a dit ça aux gens qui l'entouraient. « Pourquoi venez-vous, courez-vous après moi ?» En me disant « Seigneur, 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 j'ai des problèmes. Seigneur, j'y arrive pas. Seigneur, j'ai des problèmes financiers. Seigneur, viens à mon secours. Pourquoi dites-vous « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Voici ce qu'il en est de celui qui met en pratique mes paroles. Voici ce qu'il en est de celui qui ne met pas en pratique mes paroles. Et il raconte l'histoire des deux maisons. Alléluia. Parce que mes amis, lorsque vous mettez en pratique la parole de Dieu, et lorsque vous mettez votre vie sur la parole de Dieu, je ne suis pas en train de dire que la vie est rose et que la vie est facile. Je ne suis même pas en train de vous dire que vous avez la victoire en claquant des doigts. Sûrement pas. C'est pas de cet évangile que je suis en train de prêcher. Et si c'est ce que vous avez cru, vous avez fait une erreur parce que c'est pas comme ça. Mais je suis en train de vous dire que malgré les oppositions et malgré les difficultés, hallelujah, si vous tenez ferme sur la parole ne peut pas échouer. La parole ne peut pas échouer. Comme je vous l'ai dit ce matin, amen, il n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Tout sera comme selon ce qu'il a dit. Hallelujah. Gloire à Dieu. Jésus est venu du ciel, n'est-ce pas? Mes amis, pour que Jésus vienne du ciel sur la terre, vous savez que Jésus avait besoin de foi. Jésus est venu et la grâce de Dieu pour nous, c'est qu'il est venu comme un simple homme. Il est venu comme vous et moi et on peut se référer à lui et prendre exemple sur lui. Lorsque Jésus est venu du ciel à la terre, il savait exactement ce pourquoi il venait. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de sa puissance, il est venu pour être un enfant, un bébé qui allait naître et qui allait devenir le fils de Dieu et le fils de l'homme sur cette terre et qui allait marcher et donner sa vie. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, il savait qu'il allait mourir à la croix. Il a attendu son temps. Il a attendu d'être revêtu de l'Esprit. Lorsqu'il a été revêtu de l'Esprit, amen, et simplement lorsqu'il a été revêtu de l'Esprit, il est entré dans les miracles que Dieu avait pour lui. Oui, mais la fin de son chemin, il savait très bien que c'était la croix. Comment Jésus a-t-il fait face à la croix? Pourquoi Jésus a-t-il fait face à la croix? Le seul moyen pour lui de marcher sur cette terre dans la victoire et d'aller dans l'obéissance à son Père jusqu'au bout, c'est parce qu'il connaissait son Père. Je suis en train de vous dire que la foi, c'est la connaissance de Dieu. Parce qu'il connaissait son Père, il savait que son Père n'avait qu'une parole. Il savait que son Père, ce que sa bouche a dit, son bras l'accomplit. On dit beaucoup ça en ce moment, ces derniers temps. Hallelujah. Peut-être certaines personnes en ont besoin. Ce que sa bouche a dit, son bras l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, son bras l'accomplit. Hallelujah. Il savait que son Père ne mentait pas et que son Père ne trompait pas. Et lorsque Jésus était sur cette terre, il a parlé la fin dès le commencement. Amen. Est-ce que c'est pas ce que je vous ai dit la semaine dernière? Est-ce que vous vous en rappelez? Je vous ai dit, dès le commencement, vous parlez la fin. Amen. La foi, c'est parler la fin hein, dès le commencement. Lorsque Jésus était sur cette terre, il parlait à ses disciples. Et comme je vous l'ai dit ce matin, il a dit à ses disciples à de nombreuses reprises, voilà ce qui va se passer. Et ce qui allait se passer, c'est que les hommes allaient le prendre, allaient le fouetter, allaient le faire souffrir, allaient le battre, allaient lui cracher dessus. Il serait livré entre les mains des pécheurs, n'est-ce pas? Il serait mis à mort. Il l'a dit combien de fois? Mais le troisième jour, il ressusciterait. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que Jésus a eu de la foi. Il savait qu'il allait mourir et il a accepté de mourir en sachant qu'il allait ressusciter. Est-ce que vous m'entendez ce soir? C'est parce qu'il savait qu'il allait ressusciter qu'il est passé par la croix. Oh, c'était pas facile. Je suis pas en train de vous dire que c'était facile. Oui, c'est vrai qu'il a eu un combat. Il s'est dit, mais Seigneur, est-ce que je dois vraiment boire cette coupe? Et puis, il y a ce sang qui est sorti, qui parle de l'angoisse et du tourment, de la pression qui était contre lui, qui est ce sang qui est sorti de son front. Parce que lorsque vous marchez par la foi, c'est pas toujours évident que vous êtes toujours dans la paix. Il y a des moments où vous devez vaincre, vous devez surmonter par la parole de Dieu. Toutes les choses qui sont jetées sur vous et contre vous, toutes ces impressions et toutes ces angoisses et tout ce qui vient pour vous tenailler. Jésus lui-même y a fait face. Mais voyez-vous, il a accepté la croix parce qu'il a décidé de croire que oui, il allait mourir, mais que Dieu allait le ressusciter. La résurrection ne dépendait pas de lui. Il a dû faire confiance dans le Père que lorsqu'il serait en enfer, il enverrait sa puissance pour le ranimer et pour le relever. Est-ce que vous réalisez la foi que ça lui a demandé? Jésus a marché par la foi. Alléluia. Il a marché par la foi sur cette terre. Il avait la foi que Dieu le ressusciterait. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, la foi, c'est puissance. La foi, c'est vraiment puissant. Gloire à Jésus. Vous voyez, la foi commence là où commence la volonté de Dieu. Est-ce que vous m'entendez ce soir? La foi commence là où commence la volonté de Dieu. Vous dites, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez pas exercer votre foi pour tout et n'importe quoi. On sait bien qu'il y a des gens qui exercent leur foi pour que Pierre, Paul ou Jacques soient leur mari. On le sait. Marie, Françoise et Thérèse soient leurs femmes. Ça ne marche pas comme ça. On force pas la volonté des gens et on force pas non plus la volonté de Dieu. On fait pas le bras de fer avec le Seigneur. Il y a des gens qui croient pour n'importe quoi. Il y a des gens qui mettent leur foi en Dieu pour n'importe quoi. Pour des bonnes choses comme pour de mauvaises choses. Oui, mais la foi, elle commence. Elle commence son œuvre lorsque l'on est dans la volonté de Dieu. La foi commence là où commence la volonté de Dieu. Si moi, je commence à mettre ma foi pour devenir une super businesswoman dans le monde de la mode, ça paraît peut-être bien de faire des affaires, ça paraît peut-être selon la parole de Dieu, la prospérité. Je peux mettre ma foi pour cela, ça semble bon. Pourquoi Dieu serait contre moi? Oui, mais c'est pas le plan de Dieu pour ma vie. Dieu me l'a jamais dit, Dieu m'a jamais conduit comme ça. Je peux mettre ma foi et dire, Seigneur, je vais être une super businessman dans le nom de Jésus. Businesswoman dans le nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole que, et je peux prendre tous les versets, la prospérité, tu me fais réussir dans ces voies. Dieu me bénira pas. Vous savez, j'ai vu des gens libérer leur foi pour des choses, même qui sonnent bonnes pour des maisons et pour des choses, alors que c'était pas la volonté de Dieu. Et j'ai vu ces mêmes personnes ne pas avoir. J'ai discuté avec certaines de ces personnes. Je leur ai dit, est-ce que vous êtes sûr que c'est la volonté de Dieu? Oui, oui, c'est un bon plan. Oui, c'est bon. Déjà, c'est déjà pas mal quand c'est bon. Il y a des gens, des fois, qui mettent leur foi dans des trucs qui sont pas bons. On leur dit non, non, mais déjà quand c'est bon, donc c'est bien. Mais c'est pas parce que c'est bon que c'est la volonté de Dieu pour vous. Je me rappelle, il y a une personne, je lui ai parlé. Je lui dis, est-ce que vous êtes sûr que c'est la volonté de Dieu que vous achetez cette maison? Est-ce que vous êtes sûr? Oh oui, oui, c'est la volonté de Dieu, oh oui, c'est la volonté de Dieu. Bon, gloire à Dieu, si, je disais à cette personne, si c'est la volonté de Dieu, vous l'aurez. Il n'y a pas de raison, vous l'aurez. Et si c'est pas la volonté de Dieu, je sais pas. Moi, je me souviens, lorsque j'ai acheté ma maison, lorsque mon mari, nous avons pu obtenir notre maison, ben, je me souviens que lorsque je suis entrée dans cette maison, j'ai senti dans mon cœur que c'était ma maison. Or, à ce moment-là, jamais personne ne m'aurait dit que c'était ma maison. J'avais pas les sous pour acheter cette maison, je n'étais que locataire de cette maison. J'ai parlé au propriétaire rapidement, je lui ai demandé est-ce que éventuellement, vous savez, quand on s'installe quelque part, on veut savoir si on va s'installer pour 1 an, pour 3 ans, pour 5 ans, pour jamais, pour peut-être, on ne sait pas. Donc j'ai demandé au propriétaire, je lui ai dit, bon, est-ce que dans l'avenir éventuellement vous aimeriez vendre votre maison? Oh non, jamais, grand jamais, ma fille a grandi dans cette maison, ma fille est née dans cette maison, non, je ne veux pas vendre cette maison, jamais je vendrai cette maison. Ah bon? Pourquoi jamais vous vendrez cette maison? Oh, mais parce que je suis même passée au travers du divorce, à 2 doigts du divorce avec ma femme, parce que ma femme voulait vendre cette maison et moi je n'ai jamais voulu vendre cette maison. Il m'a sorti tous les arguments comme quoi jamais, jamais il vendrait cette maison. Il dit, moi j'ai fini de payer cette maison. Non, non, j'ai pas l'intention de vendre cette maison, parce que maintenant, bon, je loue cette maison et puis j'ai l'intention de revenir dans cette maison. Voilà ce qu'il m'a dit très clairement. Dans 3 ans, j'ai l'intention, vous avez un bail pour 3 ans, dans 3 ans, j'ai l'intention de revenir dans cette maison. Et puis, qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Je ne me rappelle même plus. Enfin bon, bref. Et moi, dans mon cœur, j'avais le sentiment que c'était ma maison. Alors j'ai commencé à dire simplement la parole qui sortait de mon cœur. Et je me suis dit, Seigneur, j'habiterai dans une maison que je n'ai pas construite, parce que ta parole déclare, nous habiterons des maisons que nous n'avons pas construites et nous boirons du vin de vignes que nous n'avons pas plantées. J'ai pas construit cette maison, j'ai rien fait pour cette maison, mais je veux cette maison. Je te rends grâce de ce que tu me donnes cette maison. Tu ordonnes les situations et les choses pour que je puisse avoir cette maison. Maintenant, j'ai libéré ma foi pour cela, oui, mais j'avais un témoignage à l'intérieur. Je sentais que c'était du Saint-Esprit. Je savais que le Saint-Esprit n'avait pas l'intention que je sorte. Mon mari et moi, nous sommes restés 5 ans dans une garçonnière. Impossible d'avoir un projet d'avenir. Impossible même de penser à un petit Louis à l'époque. Il fallait avoir une maison. On était dans une garçonnière. On était bien. On était tous les deux. Mais impossible d'élargir la famille. Donc, il nous fallait une maison. Et je savais que Dieu, le plan de Dieu, c'était pas qu'on aille dans une maison et après, au bout d'un an ou deux ans, il fallait encore déménager et trouver une autre maison pour enfin peut-être avoir un crédit, pour enfin peut-être... Je sentais dans mon cœur que ça venait de Dieu. Je sentais que ça venait de l'Esprit de Dieu. J'ai simplement confessé la parole. Et de temps en temps, j'ai pris la température. Je téléphonais à mon propriétaire, je demandais savoir quels étaient un peu ses projets. Un jour, il m'a appelé. Il m'a dit, Madame Raja, vous voulez toujours acheter ma maison? J'ai dit, je n'avais pas un sou, j'étais surprise par sa question. Enfin, je n'avais pas un sou, mais j'avais commencé par la foi à me faire des économies. J'ai dit, sans même compter rien du tout, sans même vouloir savoir quel prix il allait me dire, j'ai dit, oui, je veux toujours acheter votre maison. Ok, faites-moi une proposition. J'ai dit, oui, tout de suite, je vais vous faire une proposition. Dans la semaine, ma lettre est partie, nous nous sommes mis d'accord sur un prix. Et après, Dieu a ordonné les choses. Dieu a mis des personnes dans la banque, que Dieu les bénisse. Mes amis, ils n'étaient là que le temps pour nous d'avoir notre crédit. Et après, quand ils sont partis, nous avons dit, oh, gloire à Dieu. Dieu avait mis ces personnes, les personnes les plus compréhensibles, les plus merveilleuses, les plus charmantes, qui ne nous ont jamais donné un mal de tête. Et Dieu sait combien. À notre époque, aujourd'hui où les banques sont très crispées avec l'argent, des gens et les situations qui changent, Dieu sait combien c'est difficile d'avoir un crédit. Dieu a mis juste ces personnes, je me rappelle très bien de cette femme. Oh là là, elle était dynamique, elle était responsable au niveau des crédits de toute la région. Elle a fait mon dossier, c'est passé, gloire à Dieu comme ça. Oh, elle était charmante et juste après, elle est partie. Oh, hallelujah. Juste du beurre et la grâce de Dieu. Une bonne dose de grâce de Dieu. Hallelujah. Oui, mais je savais que c'était la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire, la foi commence là où commence la volonté de Dieu. Vous pouvez pas exercer votre foi pour tout et n'importe quoi et puis après vous prendre un mur dans le visage et après être découragé et dire la foi ça marche pas. Est-ce que vous comprenez cela? Des gens, ils partent dans tous les sens, ils sont zélés, ils prennent la parole de Dieu. Bon, alors, c'est la parole de Dieu, oui, c'est la parole de Dieu, ça peut pas échouer, ça peut pas changer, ça peut pas tomber. Bon, alors, puisque c'est puissant, c'est super, c'est surnaturel, alors je vais aller dans tel projet. J'y vais, je cours, je me demande même pas si c'est la volonté de Dieu, je m'arrête pas 5 minutes, je passe pas du temps en prière, je demande pas la direction du Saint-Esprit, donc je fonce, parce que c'est bon, c'est ça va me rendre prospère, ça va me rendre riche, oui, c'est bon, c'est tout positif. Ouais, mais Dieu, il est à côté. Moi, je me souviens, lorsque... du haut de mes 19 ans à peu près, Dieu a bouleversé ma vie et Dieu a changé ma vie. Je me rappelle, c'est vraiment un prophète qui est venu dans ma vie et qui a changé et transformé ma vie. J'avais des objectifs dans ma vie, j'avais des buts. J'avais l'intention, sans avoir jamais posé la question à Dieu, j'avais l'intention d'avoir une jolie petite plaque dorée quelque part, amen, qui allait dorer mon blason, enfin surtout mon orgueil personnel. N'est-ce pas? J'avais l'intention donc de faire 7 ans d'études, et etc., etc. Et puis je me trouvais dans une réunion, n'est-ce pas? Il y a un prophète qui était là, et j'honore ce prophète, et je le bénis dans le nom de Jésus. Et du haut de mes 19 ans, il m'a pointé du doigt, et il m'a fait venir sur le devant, et il m'a donné la parole de Dieu pour moi. Lorsqu'il m'a donné la parole de Dieu pour ma vie, c'était tellement puissant. L'Esprit de Dieu était tellement puissant que je n'ai pas pu même entendre une des choses qu'il m'a dit, tellement l'Esprit de Dieu était descendu sur moi. Et Dieu merci pour le pasteur qui avait enregistré la cassette, et la cassette que j'ai encore, hallelujah, qui date de 89. Et dans cette prophétie, Dieu me disait, tu es à la croisée des chemins. Beaucoup des chemins qui sont devant toi sont bons, ils sont bons pour toi. Ils vont te faire plaisir. Et dans ces chemins, si tu vas dans ces chemins qui sont ce que tu désires, ce que toi tu aimes, ce qui te fait plaisir, la prophétie disait, Dieu ne va pas être contre toi, Dieu ne va pas te maudire, Dieu ne va pas te mettre sur toi la pauvreté et la misérabilité. Il y aura une bénédiction même si tu vas dans ce chemin-là. Oui, mais ce n'est pas le chemin de Dieu pour toi. Parce que j'ai un autre chemin pour ta vie, j'ai un plan pour ta vie. Il a commencé à me parler du plan de Dieu pour ma vie. Et en fait, le chemin que je désirais pour ma vie, Dieu n'allait pas me maudire dans ce chemin-là. Comprenez ? Mais la bénédiction de Dieu était dans l'autre chemin. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que nous courons dans des chemins qui ne sont pas mauvais, où Dieu même peut libérer un peu de sa bénédiction. Dieu ne libère jamais sa totale bénédiction sur des chemins qui ne sont pas sa totale volonté. Il y a une certaine bénédiction, comme la manne dans le désert. Le plan de Dieu pour les Hébreux, c'était pas qu'ils mangent la manne pendant 40 ans. Vous comprenez ? Mais parce qu'ils étaient désobéissants et qu'ils n'allaient pas dans le chemin de Dieu, Dieu libérait sa manne, et Dieu libérait sa manne, et Dieu libérait sa manne. Mais le plan de Dieu, c'était le lait, le miel, les fruits qui étaient dans Canaan. Mais pour cela, il fallait de l'obéissance. Lorsque vous ne suivez pas le chemin de Dieu, vous marchez dans un chemin sur lequel il y a une certaine bénédiction parce que vous êtes ses enfants et qu'il vous aime et qu'il ne vous laisse pas dans le trou. Mais il n'y aura jamais la pleine bénédiction. La pleine bénédiction, l'abondance et la grâce se trouvent sur le chemin de l'obéissance. Alléluia. Donc, lorsque vous avancez par la foi, et lorsque vous marchez par la foi, vous devez vous assurer que les choses pour lesquelles, les projets de foi que vous prenez pour votre vie, sont les projets de Dieu. C'est très important. Sinon, vous allez vous casser le nez. Dieu ne sera pas dans vos projets, parce que Dieu ne fait pas de compromis. Dieu ne sera pas dans vos projets, même si ce sont de bons projets. Amen. Alléluia. Et si vous partez dans des projets qui ne sont pas selon Dieu et que vous allez avec la foi et avec la parole de Dieu, vous n'allez pas avoir le résultat obtenu et vous allez être découragé et vous allez penser à la fin que le diable est plus fort et vous allez penser à la fin que la parole de Dieu ne marche pas. Est-ce que vous m'entendez ? C'est comme ça que beaucoup de chrétiens se découragent et passent à côté des buts de Dieu. Alléluia. Donc la foi commence là où commence la volonté de Dieu. Alléluia. J'ai un tellement long message sur la foi que je ne sais même pas, j'ose même pas y entrer. Parce que je ne saurais même pas comment en sortir. Vous savez, la foi, c'est important. Est-ce que vous réalisez que la foi, c'est important ? Est-ce que vous réalisez aussi que ça fait un certain temps qu'on n'a pas parlé sur la foi ? C'est vrai que depuis cette année 2005, me semble-t-il, on a commencé à parler sur la foi. Mon mari a enseigné aussi sur la foi. Amen. Mais ça fait un certain temps qu'on n'a pas enseigné sur la foi. Ça fait même plusieurs années où on n'a pas vraiment parlé de la foi. Mais la foi, c'est important. La foi, c'est très important. C'est notre respiration. Amen. Alléluia. Donc, laissez-moi vous partager encore un ou deux points. C'est sûr que je n'irai pas au bout, mais ce n'est pas grave. On continuera une prochaine fois. La foi, donc c'est le point suivant. La foi parle. Amen. Ça, je vous en ai parlé. J'en ai parlé la semaine dernière, c'est pour ça que je suis partie cet après-midi dans des chemins détournés, mais c'est pas grave. Mais en fait, pour être la deuxième partie de mon message cet après-midi, de mon message de la semaine dernière, c'était vraiment de vous rappeler que la foi parle. Est-ce que vous savez que la foi parle ? Oui, mais est-ce que vous parlez la foi ? Est-ce que vous parlez la foi ? Tout le monde sait que la foi parle. Lorsque je vous dis que la foi parle, vous le savez, vous me dites oui, amen. Vous le savez, oui, mais est-ce que vous le pratiquez ? Vous savez que la foi parle, mais est-ce que vous parlez la foi ? Amen ? Ouh ! Alléluia ! La foi parle. Le seul moyen, rappelez-vous cela. Si on termine avec cela, alléluia, on reprendra plus tard. Mais le seul moyen d'activer votre foi, le seul moyen de multiplier votre foi, de la développer et de l'exercer, c'est de la parler. Vous ne pouvez pas multiplier votre foi, grandir dans la foi, progresser dans la foi, si vous ne parlez pas le langage de la foi. Et le langage de la foi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Rappelez-vous, Joël 3 déclare que le faible dise... que le faible dise « Je suis fort ». Ce n'est pas le fort qui dit « Je suis fort ». C'est celui qui est faible qui a besoin de dire « Je suis fort ». Est-ce qu'il est fort ? Non. Il se sent faible. Mais qu'est-ce qu'il déclare ? Je suis fort. Que le faible dise « Je suis fort ». Qu'est-ce que vous voulez de la part du Seigneur ? Si vous ne voulez rien, c'est sûr que vous ne parlerez rien. Mais si vous voulez quelque chose, vous allez rapidement vous trouver en train de parler. Parce que si vous voulez être fort, vous allez dire que vous êtes fort. Si vous voulez être en bonne santé, vous allez déclarer ce que dit la parole de Dieu. Si vous voulez être prospère, vous allez déclarer ce que dit la parole de Dieu. Je vous demande ce soir, qu'est-ce que vous voulez être ou qu'est-ce que vous voulez avoir ? Alléluia ! Ce que vous voulez, vous devez le parler. Vous devez le confesser. Vous devez le prier. Vous devez le proclamer. Vous devez le prophétiser. Prophétisez-vous à vous-même. Vous êtes le prophète de votre propre vie. Vous avez suffisamment de paroles de prophétie dans cette Bible pour les prophétiser à vous-même, dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous devez parler. Rappelez-vous, vous n'êtes pas sauvé avant d'avoir confessé. Premièrement, vous croyez, bien sûr. Et parce que vous croyez, vous confessez. Et parce que vous confessez, Dieu crée en vous et recrée en vous son esprit. Il met en vous un esprit recréé qui s'appelle la nouvelle naissance. Oui, mais d'abord vous confessez, après votre esprit est recréé. Ça marche comme ça avec Dieu. Est-ce que vous m'entendez ce soir ? C'est pas votre esprit est recréé et après vous confessez, ça marche pas comme ça. Un, vous confessez, deux, votre esprit est recréé. Ça marche comme ça. Un, Dieu a parlé, deux, les choses se sont produites. Alléluia. La Bible dit dans Romains 4, 17, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Apocalypse 12 déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils ont vaincu Satan à cause de quoi ? De la parole de leur témoignage. Ils ont vaincu leurs circonstances à cause de quoi ? De la parole de leur témoignage. 2 Corinthiens 4, 13. Prenez cette référence. Il est écrit, « Et nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Ou, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Lorsque vous croyez, vous parlez. Alléluia. Nous aussi, termine le verset, « Nous croyons et c'est pour cela que nous parlons, » a dit Paul. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Lorsque vous croyez, vous parlez. Lorsque vous parlez, vous libérez la puissante parole de Dieu qui probablement parle en un instant, mais qui va prendre un processus, qui va exiger un processus, mais qui va amener les choses dont vous avez besoin à l'existence. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Alléluia. Que le faible dise « Je suis fort ». Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Voyez-vous, le pasteur John Lowe est venu ici. Amen. Je ne sais pas s'il vous a donné des nouvelles de débit. Mais en fait, ce qui s'est passé, il y a quelques mois de cela, à la fin de l'année 2004, il n'en a même pas parlé parce que il est dans la parole, n'est-ce pas ? Mais à la fin de l'année 2004, Debbie a fait une chute. En fait, dans son église, elle était en train de faire, je crois, une pièce de théâtre. Elle a fait une chute et elle a fait une très mauvaise chute. Et en fait, dans son dos, il y a, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a des disques qui ont été, je ne sais pas exactement, la moelle épinière a été touchée ou quelque chose. Et depuis peut-être novembre 2004, elle a souffert le martyre au niveau de son dos. Maintenant, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de ces choses parce que quand on se tient dans la parole, et je pense que le pasteur John n'en a pas parlé parce qu'il est venu prêcher la parole de Dieu et qu'il se tient dans la foi. Maintenant, quelquefois, c'est pas mauvais non plus de savoir cela. Vous comprenez? Parce que même des serviteurs de Dieu, il n'y a pas que vous lorsque vous passez par des difficultés. Parce que vous savez, parfois, le diable a cette façon de vous isoler, de vous dire, il n'y a que moi, est-ce qu'il y a une malédiction sur moi? Est-ce qu'il y a quelque chose sur moi? Vous comprenez? Il n'y a pas que vous non plus. Nous devons tous marcher par la foi. Nous avons tous des circonstances adverses. En fait, ce que je sais, parce que je suis de temps en temps donc en contact téléphonique avec Debbie, ce que je sais, c'est que depuis novembre, elle a quasiment été tout le temps alitée. Elle a été obligée d'arrêter son travail au bureau. Elle a été obligée d'arrêter ses réunions pour les femmes. Elle a quasiment été presque obligée d'arrêter de venir à l'église. Mais qu'est-ce qu'elle fait depuis novembre? Elle parle la parole de Dieu. Est-ce que son dos a été ressuscité en un instant? Je l'aurais souhaité. J'aurais aimé, et sûrement elle aurait aimé, parce que les douleurs de dos, c'est une des choses les plus horribles qui soient. Certains d'entre vous, vous avez peut-être eu ne serait-ce qu'un lumbago ou quelque chose, ça ne touche sûrement pas la moelle épinière, ou un disque, ou un écrasement de disque, ou je ne sais pas quoi exactement. Mais une petite douleur de dos, ça fait tellement mal. Mais la douleur de dos qu'elle a, c'est vraiment quelque chose qu'elle a eu, c'est quelque chose de vraiment insupportable. Et elle s'est tenue dans la parole de Dieu, Et à chaque fois que nous envoyons un email ou que nous communiquons ensemble, je lui demande de ses nouvelles. Oh, je ne m'attends à rien d'autre de sa part que la réponse qu'elle me donne tout le temps. I'm the healed of the Lord. Elle me dit, je suis la guérie du Seigneur. La seule chose qu'elle me dit, je suis celle qui est guérie par le Seigneur. Est-ce qu'elle a encore mal? Sûrement. Est-ce que les choses ont disparu du jour au lendemain? Pas encore. C'est en chemin. Il y a eu déjà beaucoup de progrès, beaucoup d'avancées. Gloire à Dieu pour cela. Parce qu'à chaque fois, elle me dit des nouvelles choses que Dieu a fait. Des nouveaux progrès, des choses nouvelles qu'elle arrive à faire qu'elle n'arrivait pas à faire. Gloire à Dieu. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce que la parole de Dieu, c'est vrai que Dieu peut guérir en un instant. C'est vrai que tellement de personnes ont été guéries comme cela, du jour au lendemain. Le don de guérison vient, entre dans la vie d'une personne. La personne est changée et transformée. Ses situations étaient comme ça, et le lendemain, ses situations sont comme ça. Oui, mais c'est pas toujours le don de guérison qui se manifeste. Parfois, c'est le don de la foi. Et le don de la foi, et la foi, et la parole de Dieu dans nos vies, ça exige un processus. Vous dire ce que je préfère? Moi, je préfère le don de guérison. C'est plus rapide, c'est plus vite et c'est sans effort. Parce que c'est donné, c'est gratuit. Oui, mais la maturité se trouve dans le don de la foi. La maturité se trouve dans le fait de parler la parole de Dieu et d'aller chercher son miracle. De toute façon, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, on n'a pas le choix. On doit avancer et on doit obtenir dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. En tout cas, elle parle la parole de Dieu. Et vous savez ce que je sais? C'est que dans un certain temps, elle sera sur cette estrade. Et qu'elle prêchera pour les hommes ou pour les femmes ou pour les hommes et les femmes, peu importe. Mais elle sera là en tant que plantation du Seigneur, en tant que guérie du Seigneur, comme elle a toujours dit. Parce que Dieu ne peut pas échouer avec notre foi. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, nous devons vaincre dans le nom de Jésus. Et nous vainquons dans le puissant nom de Jésus. La parole en vous produit un feu. Elle produit quelque chose en vous. Il est écrit, mes paroles sont esprit et vie. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Lorsque les disciples marchaient sur le chemin d'Emmaüs, ils avaient ce Jésus ressuscité qui était à côté d'eux. Ils ne savaient pas qui il était, ils n'arrivaient même pas à le reconnaître. Ils lui ont dit, mais es-tu le seul de tout Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé, que le Christ le ressuscité, est mort et il y a 3 jours, il a été enseveli et qu'on ne trouve même pas son corps maintenant? Ils sont en train de parler ces choses-là et ils ne savent même pas que le Dieu vivant est en train de marcher à côté d'eux. Et voici, ils vont ensemble et ils marchent ensemble et ils se trouvent devant une table et Jésus brise le pain. Et au moment où il brise le pain, il disparaît et ils se disent, mais lorsqu'il nous parlait des prophètes et qu'il nous révélait la parole de Dieu, n'y avait-il pas un feu qui brûlait dans nos cœurs? Il n'y avait pas quelque chose qui brûlait à l'intérieur de nous? Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu met un feu dans votre cœur. La parole de Dieu met un feu dans votre vie. La parole de Dieu vous fortifie, vous encourage et vous devez rester sur la parole de Dieu. D'ailleurs, le dimanche, la plupart du temps, vous allez bien. C'est rarement un jour où vous n'allez pas bien. C'est toujours un jour où vous êtes au sommet parce que vous êtes plongé dans la parole de Dieu. Vous sortez le dimanche soir, vous êtes invincible. Toutes les difficultés, toutes les factures n'ont aucune importance. Vous regardez le film du dimanche soir, vous êtes tranquille. Oui, mais le lundi matin, vous reprenez le sac à dos. Vous reprenez le fardeau parce que vous ne vous plongez pas dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vous fait vaincre. Alléluia. Gloire à Dieu. La parole de Dieu met un feu dans vos vies. Met un feu dans vos cœurs. Alléluia. Alléluia. Jérémie a dit, Jérémie, simplement je vais vous lire ce passage. Dans Jérémie 20. Oh, alléluia. Il a dit, « Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. » La parole de Dieu, c'est comme un feu dans vos os. C'est quelque chose qui vous donne de la force, qui vous donne de la puissance, qui vous place au-dessus. Mais cette parole, c'est un feu dans vos vies quand vous la parlez. Il faut la libérer en face des circonstances. Alléluia. C'est tellement important. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous êtes vraiment là? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je vais terminer dans quelques instants. Il y a des choses que vous ne pouvez plus dire parce que votre vie doit être alignée avec la parole de Dieu. Je me le dis à moi-même ce soir et je vous le dis à vous aussi dans le nom de Jésus. Vous ne pouvez pas dire « je ne peux pas » parce que Philippiens 3, 13 dit « je peux faire toute chose par Christ qui me fortifie. » Maintenant, à savoir, est-ce que, vous savez, il est dit « mon juste vivra par la foi », ça veut dire « mon juste vivra selon la parole de Dieu ». Il ne vivra pas selon les sens, il ne vivra pas selon son raisonnement, il vivra selon ce que déclare la parole de Dieu. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortiront de la bouche de Dieu. Donc, mes amis, il faut que votre vie et que vos paroles s'accordent avec la parole de Dieu. Vous ne pouvez plus dire et parler du manque parce que la parole de Dieu déclare « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon ses richesses en gloire en Jésus-Christ. » Donc lorsque vous parlez du manque, lorsque vous confessez le manque dans votre vie, vous êtes en désaccord avec la parole de Dieu. Ou c'est la parole de Dieu qui règne dans votre vie, ou c'est vos circonstances. Vous ne pouvez plus parler du doute. Parce que la Bible dit que Dieu a donné à chaque homme une mesure de foi. Vous ne pouvez pas dire « je suis quelqu'un qui doute, j'ai pas de foi ». Si vous avez de la foi, alléluia. Vous ne pouvez pas confesser vos faiblesses parce que le psaume 27 déclare « le Seigneur est la force de ma vie ». Et Daniel 11 déclare que ceux qui connaissent leur Dieu feront de grands exploits. Alléluia. Vous ne pouvez pas confessez ce que beaucoup de gens aiment faire, la suprématie de Satan sur votre vie, parce que la Bible dit dans 1 Jean 4:4 que plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Si vous dites que Satan et ses circonstances sont plus grandes que vous, vous êtes en train de dire que la parole de Dieu est un mensonge. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Alléluia. Vous ne pouvez pas parler de la défaite parce que 2 Corinthiens 2 déclare que Dieu me fait toujours triompher en Christ. Vous ne pouvez pas dire que vous manquez de sagesse parce que la Bible dit que Christ a été fait et rendu sagesse pour moi. Alléluia. Vous ne pouvez pas parler de la maladie. Confessez que vous êtes malade. Parce que il est écrit clairement que dans ces meurtrissures, vous avez été guéri. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes quelqu'un d'inquiet et de frustré, parce que Jésus a dit « déposez sur moi tous vos fardeaux. Moi seul prends soin de vous. » Vous ne pouvez pas dire que vous êtes lié, parce que la Bible déclare que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Vous ne pouvez pas confesser que vous êtes seul parce que la parole de Dieu déclare « Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde, tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Vous ne pouvez même pas dire que vous êtes maudit. C'est faire et dire que la parole de Dieu est menteuse. Parce qu'il est écrit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant rendu malédiction pour nous, de sorte que nous ayons la bénédiction en Abraham. Alléluia. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a la domination du péché sur votre vie, parce que la Bible dit que l'esprit de vie en Jésus-Christ vous a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 2. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes plein d'insécurité. Alléluia. Parce qu'il est dit que l'Éternel est votre berger. Il vous conduit dans des lieux paisibles. Hallelujah.